おかしいおかしい。おかしい。
Sur Radio Cathy, c'est l'heure de l'émission Dialogue entre Congolais avec Jean-Claude Toumba. Comment ?
Bonsoir. Affaire Jean-Pierre Bemba, la première audience de confirmation des charges s'est déroulée ce lundi 12 janvier à la Cour pénale internationale, c'est à La Haye aux Pays-Bas. Cette audience s'étale sur 4 jours et devra se clôturer le jeudi 15 janvier prochain. L'objet de l'audience, déterminer s'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier un procès. Que retenir alors de cette première audience, de la question principale du sujet unique de cette émission de dialogue entre Congolais? Pour en discuter, nous avons invité pour vous Jacques Joly Estingue-Kelly, sénateur MNC, Maître Yacinthe Guédebois, il est avocat au barreau de Bangui et président de l'ONG Association chrétienne pour l'abolition de la torture en Centrafrique, et le professeur Nyabirungu Mwenesonga, il est professeur de droit à l'UNIFIL, avocat au tribunal pénal international pour le Rwanda, mais aussi à la Cour pénale internationale, il est aussi député national CPRD. À tous, bienvenue dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez participer à l'émission, réagissez par SMS au 081 05 15 758 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Affaire Jean-Pierre Bemba, Cour pénale internationale, la première audience de confirmation des charges a eu lieu ce lundi 12 janvier à La Haye aux Pays-Bas. C'est après deux reports, le 4 novembre et le 8 décembre 2008. Au cours de cette audience, le procureur a accusé le mouvement de libération du Congo MLC de Jean-Pierre Bemba d'avoir commis, sur instruction de son leader, des viols, meurtres, tortures et pillages entre octobre 2002 et mars 2003. Le procureur Fatou Bensouda a aussi accusé Jean-Pierre Bemba d'avoir utilisé les viols comme une arme de guerre. Accusation rejetée par la défense de Jean-Pierre Bemba. Maître Kilolo, l'un de ses avocats, donne également la substance de l'audience de ce lundi. Il a été joint tout à l'heure au téléphone par Kelly Kouté.
Ce que l'on peut retenir de la journée d'aujourd'hui, c'est que désormais, les témoins du procureur sont connus. Nous constatons qu'il ne fait pas usage de plusieurs témoins tels que l'on pouvait s'attendre, tels qu'il avait annoncé notamment dans les médias. Il faut savoir aussi que aujourd'hui la défense a pu démontrer qu'en réalité les MLC n'étaient pas un mouvement rebelle politico-militaire à l'époque des faits en 2002, mais qu'au contraire, il s'agit en réalité d'un organe qui avait les attributs d'un État, parce que avec les accords de Lusaka, la souveraineté, l'impérium de l'État congolais était éclaté en trois, et de sorte que le MLC, lorsque il a accepté de mettre à disposition de la République centrafricaine ses troupes, n'a fait que répondre à des engagements internationaux, compte tenu notamment des accords régionaux des pays de la CENSAD, compte tenu notamment de l'article 51 de la Charte des Nations Unies qui prévoit qu'un État souverain peut solliciter l'assistance militaire de la part d'un autre pays, ce qui était le cas notamment du président Patassé à l'époque.
Maître Kilolo, est-ce qu'on peut savoir ce qui est prévu à l'audience de demain?
La Cour attend demain la défense sur toute la question de crimes contre l'humanité. Nous allons pouvoir démontrer en tout cas que le procureur n'a pas suffisamment d'éléments et qu'au contraire, nous allons demain apporter des éléments de preuve qui démontrent que il n'y a pas eu crime contre l'humanité, et même si quelques exactions ont pu avoir été commises sur le terrain, en tout cas, il est impossible d'établir la responsabilité de Jean-Pierre Bemba, dans ce sens qu'il est impossible d'établir qu'il y avait dans son chef une intention criminelle délibérée pour commettre les crimes, les pillages et toutes les exactions qui sont impliquées aux soldats du MLC.
Sénateur Jacques Joly, bonsoir. Comment vous avez accueilli cette première audience?
D'abord, nous avons eu des sentiments de satisfaction parce que ça fait plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs jours que ces accusations tournent autour de M. Jean-Pierre Bemba et que finalement, au-delà de tout ce qui est en dehors du droit, nous avons finalement l'opportunité de débattre du droit devant, n'est-ce pas, la CPI. Donc c'était un premier élément. Deuxième élément, c'est un peu de satisfaction parce que en suivant les premiers éléments tels que vient de donner Maître Pilolo, on sent que l'accusation qui a eu à plusieurs reprises reporté cette audience devant la chambre préliminaire
par deux fois
pour dire que je cherche des preuves, alors que la même accusation était très pressée, n'est-ce pas, pour se saisir de Jean-Pierre Bemba, on sent que elle se cherche encore et que le fait sur lequel elle veut fonder sa démarche reste plus ou moins fluide et fluable. Troisième élément aussi, c'est dans un procès centrafricain, qui s'est déroulé sur le sol centrafricain, on sent que c'est Jean-Pierre Bemba, qui est un élément pour nous secondaire, parce que ce procès, c'est d'abord un procès de centrafricain, mais voilà que la Cour, dans une démarche que nous avons jugée sélective, pour ne pas dire politique, c'est saisi de Jean-Pierre Bemba pour justifier, n'est-ce pas, faire preuve de sa volonté d'existence, dès lors qu'on a dit qu'elle s'occupait tout simplement de Mélie Frétin. Il leur fallait, n'est-ce pas, le faire valoir et le faire valoir que la Cour a su trouver ces gens qui n'avaient pas.
Alors, nous avons en ligne depuis Bangui, Maître Hyacinthe Djegba. J'espère que je prononce bien votre nom. Bonsoir, Maître.
Bonsoir, monsieur.
Ouais. Vous avez suivi ce qu'a dit Jacques Djoli, qui est sénateur à l'MLC. L'MLC, c'est le parti de Jean-Pierre Bemba. On peut dire que c'est un moment très attendu, n'est-ce pas, du côté des ONG comme la vôtre, hein, cette première audience.
Oui, c'est un moment très attendu du côté des ONG que nous sommes, parce que nous soutenons vivement les victimes des exactions et différents crimes massifs commis par les éléments de Jean-Pierre Bemba, dont ils les ont commis en 2002, 2003. Et aussi, c'est une attente très particulière de toute la population. Parce que vous savez, monsieur le sénateur ne peut que prendre cette cause de son montant, qui est donc un débat, parce qu'il défend la douceur, ça nous blanchit. Mais moi, objectivement, qui était sur le terrain, qui suis sur les lieux où les crimes ont été commis, je peux, sans risque de me tromper, de l'assurer, de lui dire que depuis plus de 10 ans que la RFC avait connu des affrontements, on n'avait jamais assisté à de plus de viols. Des viols, et encore des jeunes filles qui ont été violées devant leurs parents, des femmes qui ont été violées devant leurs maris, et encore même des jeunes qui ont été violées. Donc, je vous dis que c'est un moment très particulier pour les peuples africains et pour les ordres des droits de l'homme que nous sommes pour que justice soit rendue.
Et comment vous avez trouvé...
Les militants contre l'impunité.
Oui. Et comment vous avez trouvé cette première audience?
Ben, c'est une première. Vous savez que la Cour pénale, c'est une juridiction naissante. Elle essaie de faire ses premiers pas. Et j'en suis un bimba. N'est pas n'importe qui. Il y a beaucoup de supplications qui ont pu son arrestation et tout, son énergie politique. Et donc, pour la journée d'aujourd'hui, j'attends de voir le montant de tout le dossier avant de me prononcer. Mais je me dis que la journée d'aujourd'hui n'est qu'un premier pas. Et on ne peut pas apprécier à sa juste valeur un premier pas.
Oui. Alors.
Et je suis conscient.
Ok. Professeur Nyabirongo, mon laissons là. Votre avis. Commentaire sur cette audience, vous êtes professeur de droit.
Merci, mais je ne peux perdre de vue que la procédure engagée implique un compatriote qui a une famille, qui vit une épreuve, et nous tenons à exprimer d'abord notre sympathie envers la famille, envers l'épouse, envers les enfants.
même si vous n'êtes pas du même camp politique.
Non, ce n'est pas important. La justice n'a pas de camp. Cela dit, la justice est déjà engagée. Et je pense que si une procédure comme cela est déjà engagée, ce qui est important, c'est que d'une part, la personne accusée ait enfin le droit d'entendre publiquement les charges qui lui sont faites et cette possibilité de les contester. Par ailleurs, la justice est là pour tous et le statut de Rome accorde une place particulière aux victimes des crimes de droit international. Et il est important que, dès la première audience, on tienne compte de leurs vues et préoccupations. Mais c'est la procédure, elle suit son cours.
Et d'après la CPI, l'audience de confirmation des charges, qui vient de commencer aujourd'hui, est une innovation par rapport aux procédures pénales internationales. La dite audience, toujours selon la CPI, ne préjuge pas de la culpabilité du suspect, mais vise à protéger ses droits en s'assurant que les affaires envoyées en jugement présentent des éléments de preuve suffisants pour établir l'existence des motifs substantiels de croire que la personne a commis les crimes qui lui ont été imputés. Vous confirmez, professeur, parce qu'il faut signaler aussi que vous êtes avocat au tribunal pénal international pour le Rwanda et à la Cour pénale internationale, vous confirmez que c'est une innovation, cette audience de confirmation de charges.
C'est exact, que ce soit à Nuremberg qui a jugé les grands criminels nazis, que ce soit devant le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, ou que ce soit devant le tribunal pénal international pour le Rwanda, jamais les victimes ne se sont vues reconnaître le droit d'exprimer leur vue, d'exprimer leurs préoccupations et de prétendre à la réparation. Pour une fois donc, une cour internationale prévoit dans le texte qui la crée que les victimes à tous les stades de la procédure peuvent être entendues personnellement ou se faire représenter par ce que le statut appelle représentant légaux. Je suis sûr que certainement ces représentants légaux, à défaut de la présence des victimes, étaient dans la salle d'audience.
Et ils étaient effectivement là. Jacques Joly, je vous ai vu prendre note, surtout quand Hyacinthe Birba, maître, qui est en train de faire Bangui parler, vous voulez sûrement répéter.
Merci beaucoup. Donc, j'ai bien suivi mon frère maître Hyacinthe. Je suis très heureux et qu'il puisse participer à ces débats, mais qu'il s'est rassuré, il ne s'agit pas des problèmes de mentor. Nous-mêmes, nous sommes enseignants de droit et nous sommes tenus quand même par un devoir d'éthique dans ce que nous disons. Ceci étant, j'aurais aimé, puisque les crimes, comme dit M. Hyacinthe, sont des crimes graves, des viols massifs, mais M. Hyacinthe doit savoir que ces crimes sont consécutifs, n'est-ce pas, à un problème de conflictualité du pouvoir, qui est d'ailleurs permanente en Centrafrique. Alors, c'est bien que nous puissions poursuivre celui que lui estime être le mentor de tout cela, mais je ne comprends pas que lui, qui est de la société civile, ait assisté sans protester aux embrassades, n'est-ce pas, entre ceux qui étaient les auteurs principaux de ces conflits, à savoir M. Patassé et M. Bozizé, qui sont embrassés devant tous les Centrafricains, M. Demarfout, qui était ministre de la Défense, et M. Bozizé, qui était chef d'état-major. Donc, comment les Congolais, nous comprenons leur émotion, les faits qui se sont passés, mais s'ils sont venus en Centrafrique, c'est parce que les Centrafriques, ça se discute le pouvoir depuis plus de 40 ans et que des crimes continuent à se commettre. Donc, c'est bon de s'attaquer à Bemba et nous sommes heureux que la Cour puisse, n'est-ce pas, ouvrir ce dossier et que les victimes centrafricaines viennent défendre leurs droits pour les crimes graves que nous ne contestons pas, mais il serait mieux que notre ami puisse dénoncer aussi la responsabilité de Centrafricains, eux-mêmes, à savoir leur désir éternel de se combattre pour le pouvoir. Deuxième élément, au-delà de l'émotion qu'on peut avoir sur ce cas, il s'agit maintenant, et le professeur l'a dit, un problème de droit. il faudra savoir si c'est Jean-Pierre Bemba qui avait ordonné à ses militaires, pour ces faits qui soient avérés, de commettre ces viols et crimes massifs que nous déplorons tous, si c'est Jean-Pierre Bemba qui avait planifié, ou si c'est Jean-Pierre Bemba n'a pas pris des mesures pour empêcher. Tout cela, nous aurons l'occasion de discuter tout au long de 3 jours, qui ne sont que des audiences en chambre préliminaire, il y aura peut-être procès, ou il y aura peut-être certaines choses qui ne seront pas suivies, mais notre souci, souci maintenant, c'est que finalement, on quitte les domaines de considération politique, le domaine de manipulation, parce que nous savons que beaucoup d'ONG centrafricaines ont été manipulées, fabriquées des victimes et autres, bien que les faits sont réels, mais nous voulons entrer dans les droits. Et les droits, c'est bien parce que lorsque la politique entre dans les droits parlent. Mais aujourd'hui, nous espérons que les droits vont rentrer sur la scène.
Maître Yassine. Maître Yassine Clébat.
Je vous remercie. Oui, j'ai suivi avec beaucoup d'attention l'intervention de mon ami. Je voudrais lui dire que je suis bien placé pour nous répondre à certains aspects à propos de l'ambassade entre les acteurs de la crise. Parce que je fais partie de ceux qui ont préparé le dialogue. J'avais personnellement rencontré l'ancien président Patassé à Lomé dans le cadre des préparatifs de ce dialogue. Je lui ai précisé que nous sommes en train de nous battre pour qu'ils viennent à Bangui participer aux assises du dialogue politique inclusif, mais que la procédure devant la Cour pénale internationale va suivre son cours. Lui-même, il a accepté. Lors de ce dialogue, il a fait une déclaration dans ce sens.
Il a dit quoi?
Nous disons que nous ne nous acharnons pas contre M. Bemba, mais nous nous acharnons contre ceux qui ont commis le crime de viol pendant la période d'octobre 2002 à mars 2003. Si le procureur a jugé utile de traquer et d'arrêter M. Bemba en premier, comme je vous l'avais déjà dit, je vais faire la remarque contre Charles. Je souhaite à ce que tous les acteurs soient arrêtés. Le procureur m'a répondu qu'il avait déjà des charges suffisantes contre M. Bemba. Ça, je pense, par 10. Et deuxièmement.
Oui, il n'en avait pas pour Patassé. Excusez-moi, est-ce que le procureur ne vous a pas dit, le procureur ne vous a-t-il pas dit s'il n'avait pas assez de charges contre Patassé, par exemple?
Non, j'ai dit que pourquoi il a arrêté Mbemba, il n'a pas arrêté Patassé, il n'a pas arrêté Aboulé Missi. C'est le procureur qui m'a dit, j'étais avec lui à une réunion en septembre 2008. C'est lui qui m'a précisé qu'il a des charges suffisantes contre M. Mbemba. Il préfère se concentrer sur Mbemba avant les autres. Moi, en tant qu'avocat, je vais faire cette remarque. Donc, ce n'est pas un acharnement contre M. Mbemba. Deuxièmement, les victimes ont été fabriquées. En 1996, en avril 1996, il y a eu une tuerie au Centrafrique. Il n'y a jamais eu de viol. Donc, il y a eu des destructions. C'est bien. En novembre 1996, il y a eu des tueries en RCA. Il n'y a jamais eu de viol. Mais c'est lorsque les éléments de Jean-Pierre Bemba ont touché le sol centrafricain, c'est là qu'on a connu ce phénomène de viol des femmes, de viol d'enfants, de viol d'hommes par les éléments de Jean-Pierre Bemba. Et ce n'est pas un acte isolé, c'est un acte collectif.
Merci beaucoup, maître.
C'est-à-dire que quelque part, M. Bemba avait préparé ces éléments.
Merci beaucoup.
Commettre ce tout grave.
Oui, maître Yasselet, on va poursuivre cette émission. Juste le temps pour nous de rappeler aux auditeurs que nous parlons bien de cette affaire Jean-Pierre Bemba avec la première audience de confirmation des charges qui s'est déroulée ce lundi 12 janvier à la Cour pénale internationale à La Haye aux Pays-Bas. Cette audience s'étale sur 4 jours et devra se clôturer jeudi 15 prochain avec pour objectif déterminer s'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier un procès. Nous avons pour invité dans cette émission le professeur Nyabirungu Monesonga, professeur de droit à l'UNIKIN, avocat au tribunal pénal international pour le Rwanda et à la Cour pénale internationale, et également député national PPRD. Jacques Joly Estenguekeli, il est sénateur MLC, il est aussi vice-président de la commission sécurité et défense au Sénat. Et puis, maître Yacinthe Bedba, il est avocat au barreau de Bangui et président de l'ONG Association chrétienne pour l'abolition de la torture en Centrafrique. On poursuit le débat, mais laissez-moi d'abord vous rappeler ces contacts pour vous qui voulez nous écrire.
Dialogue au Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 890 66 78 ou encore par SMS au 081 05 15 758.
Voilà. Professeur Nyabirungu, on attend donc la suite. Comment vous voyez-vous personnellement la suite de ce procès? Parce que cette audience doit s'étaler sur 4 jours, donc devrait se terminer le jeudi.
Il importe d'abord de donner une précision lorsque on est poursuivi devant la cour, quand il s'agit de déterminer la responsabilité pénale. On parle beaucoup de la responsabilité pénale individuelle, mais en fait, il y a deux aspects qui importent de distinguer l'intention des auditeurs. La première responsabilité pénale, c'est lorsqu'une personne a agi par elle-même, par le fait de poser les actes matériels constitutifs du crime,
notamment le cas de ces militaires qui ont commis ces viols
sur le terrain, etc. C'est aussi le fait d'ordonner qu'on ait une autorité de droit ou de fait. C'est le fait de planifier, c'est le fait d'aider ou d'encourager. Ça, c'est un aspect.
Et c'est par rapport à ça que Jean-Pierre Bemba serait accusé en tant que responsable pénal. C'est pas
c'est un aspect possible. Mmh. Mais il existe une autre responsabilité pénale sur base de l'autorité hiérarchique. Cela veut dire qu'un individu peut n'avoir pas commis personnellement des actes, néanmoins être dans les liens de poursuite pour crimes internationaux parce que il savait ou avait des raisons de savoir que des crimes se commettaient ou allaient se commettre. Et néanmoins, n'a rien fait, soit pour empêcher, soit pour punir, soit enfin pour déférer à qui de droit. Donc, c'est un champ, je dirais, assez vaste. Et il faut comprendre que dans le cadre de la justice internationale, il y a des exigences fortes. Notamment ce dernier aspect où quelqu'un peut être condamné pour avoir su ou avoir eu des raisons de savoir. Maintenant, qu'est-ce que nous attendons? La loi est claire à ce sujet. L'audience de confirmation de charges aboutit soit à la confirmation de charges, soit à la non-confirmation de charges, soit en fait à l'ajournement de l'audience. S'il y a confirmation des charges, la procédure suit son cours.
Donc, c'est pas un procès.
Le procès devra s'ouvrir devant la chambre de première instance. S'il y a non confirmation, en principe, la personne est libérée. Et s'il y a ajournement de l'audience, cela veut dire que la chambre de préliminaire demande au procureur de compléter ses renseignements ou de continuer ses enquêtes, et le moment venu, quand il y aura des charges nouvelles ou modifiées, on tiendra encore une audience de confirmation des charges nouvelles. Il est important donc de savoir toutes ces possibilités qui peuvent sortir des audiences qui se tiennent à partir d'aujourd'hui jusqu'au 15.
Merci beaucoup, professeur Nyabirungu. Jacques Joly, sénateur, lorsque vous voyez le temps, Jean-Pierre Bemba, on le rappelle, a été arrêté au mois de mai de l'année passée, et là, il est prévu que, après cette audience qui doit se terminer le jeudi 15 janvier, la chambre préliminaire 3 aura 60 jours, donc 2 mois, pour décider de confirmer ou non les charges retenues par le procureur à l'encontre de Jean-Pierre Bemba et de le renvoyer, le cas échéant, en procès. Qu'est-ce que vous pensez du temps que prend la procédure à la CPI, par exemple?
Mais avant de prendre répondre à cette préoccupation, oui. Je crois que mon frère
Yassine
a compris lui-même qu'il y a l'étudier le terme concentré. Donc, la concentration, cette sélectivité cette discrimination que nous avons toujours déploré, n'est-ce pas, dans le chef du procureur.
C'est pourquoi avoir arrêté le procureur
avant de parler d'acharnement. C'est cet élément-là qui nous a toujours poussé à mettre en doute, n'est-ce pas, l'impartialité, même si on n'a pas d'un procureur l'impartialité comme telle, mais on a toujours dénoncé cette politisation, cette inclinaison. Ça, c'est de un. De deux, je crois que le procureur, plutôt le conseiller de Birungu, vous a expliqué un peu le tableau de toutes les possibilités en matière de responsabilité pénale, qu'elle soit personnelle d'abord ou qu'elle soit dans le cadre de ses responsabilités. Donc tous ces éléments de possibilité de participation criminelle, en tout cas au niveau de la défense de Jean-Pierre Bemba, on a pu démontrer que, un, Jean-Pierre Bemba n'a pas pris personne ma part à ces éléments. Deux, que Jean-Pierre Bemba n'a jamais ordonné, ni planifié, ces faits. Et qu'en termes d'autorité hiérarchique, et c'est là où j'invite mon frère de Centrafrique à peser en tant qu'avocat, de ne pas tomber dans l'excès de dénégation de la présomption d'innocence. Mais dans le cadre de la recherche, puisqu'il est auxiliaire de la justice, pour qu'on puisse déterminer qui avait l'autorité hiérarchique réelle sur les hommes qui se sont livrés au pillage. C'est la responsabilité de l'autorité centrafricaine, auprès de qui Jean-Pierre avait mis, n'est-ce pas, ses troupes. Nous ne sommes pas dans un débat de fond déjà. Mmh. Autre part, lorsque Jean-Pierre Bemba a su, est-ce qu'il n'a pas empêché? Il est démontré qu'il a empêché, il a même sanctionné. Donc, tout cet élément nous amène à voir notre apaisement sur le plan purement judiciaire. Nous ne sommes pas les juges, nous faisons confiance à la justice internationale qui doit gagner ses lettres de noblesse.
Donc, alors, vous ne craignez pas, puisque vous avez soulevé cette question, avant de revenir à la question du temps que prend la procédure, puisque vous avez soulevé cette question qui a été évoquée par le professeur Léa Birungu, vous n'avez pas peur au MLC que Jean-Pierre Bemba, justement, assume cette responsabilité pénale?
Nous n'avons pas de crainte, parce que d'autant plus que, d'abord sur le plan physique, pendant ce temps, Jean-Pierre Bemba était à Sun City en train de participer avec d'autres collègues, d'autres compatriotes, sur la recherche de notre solution. Donc, le troupe était mis à la disposition de l'autorité centrafricaine et le commandant des unités qui était là pourront témoigner à temps portant. Vous ne pouvez pas imaginer quand même qu'un homme aussi responsable que Jean-Pierre Bemba puisse envoyer ses troupes pour aller violer ses frères et sœurs centrafricains.
Ah, mais c'est rebelle quand même, hein?
Rebelle, je ne dirais pas, puisque la constitution congolaise permettait à tout Congolais le droit de s'opposer à toute façon, à toute organisation qui prenait le pouvoir en violation des prescrits de la constitution. Donc Jean-Pierre Bemba fait usage de son droit constitutionnel et l'histoire plus tard lui a donné raison. Alors revenons maintenant à la longueur de la procédure. Ça aussi nous l'avons dénoncé. Nous avons dénoncé la précipitation qu'il y a eu à arrêter Jean-Pierre Bemba. Et lorsque le procureur sera invité d'abord au mois de novembre et ensuite au mois de décembre, il n'avait pas encore d'éléments de preuve pour ne pas asseoir sa démarche. Et que maintenant, notre crainte, et le conseiller nous l'a dit, soit la Chambre pourra confirmer, soit elle pourra dire que les charges sont inexistantes et elle est la suivante du débat, soit alors ordonner la poursuite. Et là, il faudra qu'on fasse très attention, parce que l'article 60 du statut de Rome voudrait que la Chambre s'assure que la détention avant le procès ne se prolonge pas de manière excessive à cause d'un retard injustifiable imputable au procureur. Je crois que le procureur a suffisamment de moyens, de temps, il a des amis en Centrafrique comme notre ami Maître Lassalle, pour que finalement on en termine et qu'on cesse, on quitte le domaine de la métaphysique juridique pour entrer dans la positivité du droit.
Voilà. Il y a des auditeurs qui nous écrivent, le cas de Zarni qui nous écrit depuis Berne en Suisse, il dit « Nous espérons que le procureur va bien vider sa judiciaire et expliquer pourquoi Ange-Félix Patassé et ses généraux sont encore en liberté. » Là, je pense que Maître Yacinthe Begba, voilà, j'espère que cet auditeur rejoint ce que votre démarche, comme vous avez dit, que vous avez eu même à contacter le procureur à ce sujet. Maître Yacinthe? On a un petit problème avec Maître Hyacinthe. Je pense que la réalisation, Pierrot Lamézy va se battre pour essayer d'arranger, peut-être avec vous, professeur, pour répondre à cet auditeur qui nous a écrit à propos de Ange-Félix Patassé. Vous avez suivi le sénateur Jacques Joly et est revenu sur ça. Est-ce qu'il ne fallait pas arrêter Ange-Félix Patassé avant? On en parle toujours sur cette affaire.
C'est une question à la fois permanente et récurrente, mais je considère que les pouvoirs dont dispose le procureur sont tels que il est à la fois maître de la procédure et à la fois en assure la discrétion nécessaire à l'efficacité et à l'intégrité de son action. Donc, il n'est pas du tout incompréhensible que le procureur se concentre, pour utiliser un terme contesté, sur un cas pendant que les autres paraîtraient être mis en berne. Je ne pense pas qu'il y ait une limitation dans le temps, puisque, comme vous le savez, il s'agit de crimes qui sont imprescriptibles. Et le procureur ne commente pas généralement les détails de sa démarche. Donc, je veux dire qu'il n'est pas du tout démontré et que Patassé et les autres ne sont pas dans le collimateur du procureur, ni qu'un jour ou l'autre, nous n'apprendrons pas que ils ont été mis sous mandat d'arrêt ou à tout le moins cités à comparaître. Quant à la durée que vous constatez, la justice internationale, contrairement à ce qu'on peut croire, est très différente de la justice interne.
Parce que je peux rappeler, sans vous couper, professeur, il y a des rendez-vous, que le cas de Thomas Lubanga, ça fait 2 ans et 8 mois.
Voilà. Mais pensez, par exemple, au TPIR. C'est seulement...
C'est le Rwanda.
Il y a un mois, le Rwanda, il y a un mois, qu'on a jugé M. Théoneste Bagosora, qui est considéré comme le cerveau du génocide rwandais, et qui a été arrêté en 1995. Donc, il est jugé pratiquement 15 ans plus tard. Donc, la justice internationale a toujours été une justice pas seulement prudente, mais aussi une justice un peu tâtonnante. Et compte tenu de la complexité des affaires, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que quand on parle de la justice internationale, il s'agit des crimes les plus graves qui portent atteinte à l'ordre public international. Et le temps à y consacrer ne peut pas être scientifiquement préétabli. On a jugé qu'à Nuremberg, on a jugé qu'à La Haye pour l'ex-Yougoslavie, on a jugé qu'à Arusha pour le Rwanda. C'est maintenant qu'on voudrait commencer à juger de manière régulière, permanente, tous les crimes de même nature qui se commettraient à travers le monde. Donc, la question du temps, elle devient plutôt philosophique.
Voilà. Il y a des réactions qui tombent en attendant d'avoir Maître Hyacinthe. C'est dommage qu'on l'ait perdu comme son téléphone. On va poursuivre avec vous, Jacques Joly. On a deux réactions qui nous parviennent là. Si réellement, je cite, les éléments du MLC étaient intervenus du côté du président de la RCA, ces éléments étaient-ils guidés par le président Jean-Pierre Bemba ou par un responsable direct, commandant des opérations de l'armée centrafricaine? Si oui, pourquoi arrêter Jean-Pierre Bemba, d'abord l'ami du responsable? Pourquoi pas directement le président de la RCA? Comment justifier cette logique? N'est-ce pas diaboliser le MLC? C'est signé Niki depuis Ituri, c'est dans la province orientale. Monsieur Mandé nous écrit depuis les États-Unis, il pense que ce qui arrive aujourd'hui à Jean-Pierre Bemba, c'est parce que très souvent, les rébellions qui naissent n'ont pas un objectif clair, et cela affecte le niveau de discipline au sein de leur mouvement. La plupart des militaires au sein des rébellions ne sont pas formés, d'où la faute retombe souvent sur les supérieurs en cas de dévie. Comment vous répondez à ces messages des auditeurs, Jacques Joly?
D'abord, le premier, à ce qui concerne la diabolisation, je crois que l'auditeur n'a pas tort, n'est-ce pas, d'avoir à relever cette diabolisation. Et ça rejoint les inquiétudes soulevées par le professeur Nadi Ongu, à ce qui concerne les caractères tâtonnante de cette justice internationale. C'est une justice qui se cherche réellement, mais nous avons mis tous, juristes, beaucoup d'espoir à cette justice internationale, et on a l'impression maintenant qu'à cause de ce caractère tâtonnant, on risque de perdre ses crédits. Vous avez vous-même, vous savez comment le tribunal pénal international du Rwanda a eu des difficultés à trouver le moyen, le souple pour continuer. Il ne faudra pas que la justice pénale, celle des couleurs du statut de Rome, apparaisse comme une justice de faible, une justice de pauvre, une justice des nécessaires fragiles. Aujourd'hui, les quatre personnes qui sont détenues sont les personnes sorties de l'état fragile que le Congo, et qu'on cherche, n'est-ce pas, à avoir aujourd'hui le président, n'est-ce pas, du Soudan. Alors, ça pose un certain nombre de questions sur la validité morale, n'est-ce pas, de cette juridiction. Mais là, n'est pas la question, nous y croyons tous, et nous croyons que le Kabemba, puisqu'on s'y est concentré, puisqu'on a voulu en faire un symbole, servira réellement à produire une justice juste. Alors, à ce qui concerne la deuxième préoccupation de notre collègue, oui, mais je voudrais lui dire que moi-même, j'ai eu la chance pendant cette période de trouble, j'étais pas encore membre du MSC, de sillonner la plupart des zones occupées et même de voir comment le FARDC opère. Vous avez suivi dernièrement les derniers événements qui se passent à l'Est, vous avez vu le comportement des éléments du FARDC qui se sont livrés au pillage et autres actes, mais jamais ces actes n'ont été mis à la tête du commandement suprême, heureusement. Mais ce sont des actes d'indiscipline qui arrivent. Il ne faut pas exagérer, mais les FARDC se signalent par ces actes-là sans pour autant qu'on mette en la responsabilité de son commandant suprême ou de notre commandant. Donc, c'est très important qu'on ne tombe pas. Les troupes américaines en Irak se sont comportées d'une manière que nous avons, n'est-ce pas, tous déploré, mais on n'a jamais mis la responsabilité du président George Bush là-dessus. Ce sont des faits qu'il faut sanctionner. Et ici, je voudrais vous dire que s'il y avait de troupes le plus disciplinées, et je parle en toute objectivité, l'armée de libération du Congo était une armée qui était très disciplinée, qui avait d'ailleurs un code de conduite le plus dur, n'est-ce pas, parmi toutes les rébellions, parce que les commandements étaient toujours suivis, et dans les cas d'espèce, il y a eu des condamnations, et ça pose d'ailleurs un problème, n'est-ce pas, de double de poursuites sur des faits qui ont déjà été condamnés.
Le CD dira peut-être la même chose aussi, hein, le FARDC aussi peut-être. Hein.
Oui, oui, ben, d'accord. Mais je peux le rassurer là-dessus. Donc, je pourrais plutôt me concentrer sur le littéralisme sur la diabolisation. Et c'est ça qui nous fait mal et qui nous donne l'impression, c'est plus même plus précieux, c'est une réalité. Parce que le professeur Dabilongo a démontré plusieurs modalités de participation criminelle. Mais si on rentre dans le basique, c'est-à-dire on participe à un crime, soit comme co-auteur, comme auteur, co-auteur, ou comme complice, donc la corréité et la complicité. Donc, comment, on peut dire que l'approche souveraine du procureur, comment les auteurs peuvent rester libres et s'occuper essentiellement de celui qui aurait donné la pluie. Voilà un peu ce dont nous invitons la Cour à un peu beaucoup plus de justice pour le Congo et pour les Congolais.
Merci beaucoup, Jacques Denis. On va poursuivre avec les réactions des auditeurs. Cette fois, avec Guy Maté, en attendant la réalisation des signal que maintenant Maître Hyacinthe est de retour. Guy Maté.
Bonsoir, Jean-Claude. Tant qu'il n'est pas assez, n'est pas inquiété par la Cour pénale internationale, j'ai doute du sérieux et de l'impartialité de cette Cour, affirme Bema depuis Kisangani en province orientale. Bonne Colella depuis Kassi au Katanga, parce que l'affaire Bema est une illustration exemplaire pour la crédibilité de la justice internationale. Pourquoi seulement Jafar Bemba alors que Patassé n'est pas poursuivi par la CPI? L'affaire est politisée et nous n'entendons rien de concret, s'exclame Bemba Yoba depuis Lubumbashi au Katanga. Pour Gabi Boulongo depuis Kinshasa, les non-lieux ou la confirmation de charge dans ce procès déterminera le sérieux ou non du travail de la CPI dans le monde. Pourquoi la CPI juge seulement les gens qui sont faciles à arrêter, s'interroge Guillaume depuis Mangui en province orientale. Apin, Miongi, Défort, depuis Kisangani, en province orientale, parce que cette cour illustre la fameuse justice internationale à double vitesse, c'est-à-dire forte pour les faibles et faible pour les forts.
Merci beaucoup, Guy Maté. Et là, on reçoit directement Maître Hyacinthe. Vous êtes en ligne?
Je suis en ligne, monsieur.
Voilà, on ne vous a pas coupé, hein, c'est difficile la liaison téléphonique Kinshasa-Bangui.
Oui, la liaison est difficile.
Tout à fait. Est-ce que vous pouvez répondre très rapidement à ces messages des auditeurs que vous avez suivis comme ça, peut-être à la volée?
Je suis très réceptif à ce dernier message des auditeurs.
Oui.
Je suis moi-même, en tant que militant des droits de l'homme, je présume que monsieur Jean-Pierre Bemba est innocent, il doit jouir de tous les droits dont doit bénéficier un accusé, et il doit avoir un procès équitable. Et moi aussi, en tant que militant des droits de l'homme, je lutte contre l'impunité. Donc moi, je ne peux pas aussi comprendre, comme je l'avais dit, pourquoi et comment le procureur n'a arrêté que Mbemba seul. Parce que nous aussi, nous voulons, et nous savons que Mbemba n'est pas seul dans ce dossier, il faudrait arrêter tous les auteurs et tous les autres co-auteurs dans cette affaire. Je ne cesse de le dire. Et ainsi, comme tous les autres auditeurs, nous souhaiterons à ce que les autres protagonistes soient arrêtés et qu'il y ait un procès de tout le monde en toute équité. Qu'on offre la possibilité à tout le monde de se défendre. Voilà ce que nous pouvons à tout moment dire. Mais loin de blanchir M. Bemba, nous disons, et comme j'avais déjà dit, le procureur m'a précisé qu'il a suffisamment de charges contre M. Bemba. Je ne doute pas de la sincérité du procureur, mais j'encourage le procureur à mener davantage la procédure pour arrêter les autres co-auteurs dans la procédure. Voilà ce que je peux dire aux auditeurs.
Oui. Alors, il y a Guillaume, c'était notre auditeur depuis Maragui en province orientale. Lui, il dit, pourquoi la CPI juge seulement les gens qui sont faciles à arrêter? Vous avez cette impression, vous?
Vous vous adressez à moi?
Je m'adresse à Hyacinthe très rapidement, évidemment. Je en face de lui, professeur de Mirogou, c'est vrai. Oui, très rapidement avec vous, comme ça on revient, parce qu'on vous avait perdu, hein, on vous donne encore l'occasion de parler un peu.
Oui, oui, effectivement. Moi aussi, j'ai cette impression parce que je me dis qu'il ne faudrait pas seulement arrêter certains. Nous sommes contre l'impunité, mais nous sommes aussi contre la justice sélective.
Okay.
Il faudrait, si on a vu, que devant la CPI, il n'y a pas d'immunité. Donc il est souhaitable que le procureur puisse poser les actes en respectant le statut de la Cour pénale internationale.
Mmh.
Il lui donne tous les pouvoirs
pour
poursuivre quand il y a une requête.
Voilà.
Donc, dans ce cas, nous sommes contre l'impunité, nous sommes aussi contre la justice sélective.
Merci beaucoup. Il nous reste
un problème d'équité.
Ouais, voilà. Il ne reste plus beaucoup de temps, Maître Hyacinthe. On va peut-être vous donner une minute à chacun de répondre. Cette fois, on va peut-être parler politique, professeur Nabirongo, parce que vous êtes resté un peu trop technique. Il y a l'un des avocats de Jean-Pierre Bemba, il s'agit de Maître Kobe Léris, que vous connaissez très bien. Lui, en rejetant les accusations de Jean-Pierre Bemba, il a dit que c'est ce procès, c'est une tentative d'écarter Jean-Pierre Bemba des prochaines échéances électorales. Vous pensez de cette façon aussi?
Je pense qu'il est dans son rôle, qu'il a des raisons de s'exprimer ainsi, surtout que lui a l'avantage sur nous. Il a accès au dossier.
Oui.
Cela dit, je voudrais plutôt dire un mot sur cette justice internationale à deux vitesses.
Oui, allez, très rapidement.
Effectivement, c'est l'impression que ça peut donner, mais d'un côté, ne perdons pas de vue qu'à force précisément d'être des États faibles, nous sommes un vivier pour des conflits et des violences qui sont à la base de tous les crimes qui relèvent de la compétence matérielle de la Cour. Mais on aimerait que les plus grands criminels du monde, ceux qui réalisent des crimes en Irak, en Afghanistan, en Palestine, que cela quand même relève aussi du zèle, de l'enthousiasme du procureur près de la Cour pénale internationale.
Merci beaucoup. On va terminer par vous, Jacques Joly, en quelques 30 secondes seulement.
D'abord, je me félicite de l'adhésion et de l'unanimité du peuple congolais dans leur soutien, dans leur perception, n'est-ce pas, de cette injustice à double vitesse. Et nous espérons que nos frères centrafricains, qui qui ont eu le temps de faire le deuil de leur comté et de s'embrasser publiquement vont nous aider aussi à cicatriser nos plaies, à ne se faire pas manipuler pour que, n'est-ce pas, les Congolais trouvent aussi la paix dont ils ont droit. Et que c'est qu'on s'attache chez eux en faisant de sorte que les petits impétitants qui les dirigent puissent, n'est-ce pas, arrêter de faire le désordre à travers la société.
C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous. William Lungamba était la mise en onde, Pierre Namézi, Guimatri, Kelly Koutié, Mia Konda et Jean-Claude Makamanga. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Oh,